Eric Manella Kidza vous souhaite une excellente soirée chez vous. À la prochaine.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 4 décembre 2020. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Élections présidentielles et législatives au Ghana ce lundi, le sortant Nana Akufo-Addo et son prédécesseur John Mahama de nouveau face à face. Élections régionales ce dimanche au Cameroun, l'opposition et les séparatistes anglophones appellent au boycott. Les combats se poursuivent dans la région éthiopienne du Tigré, compliquant l'acheminement de l'aide selon les Nations Unies. 65 millions de cas de coronavirus dans le monde alors que plusieurs pays se préparent au déploiement des vaccins. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a obtenu un passeport et envisage un retour en Côte d'Ivoire en décembre. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi son avocate. Son parti, le FPI, salue la délivrance de ce passeport comme étant un sens de l'apaisement et demande aux autorités ivoiriennes de faire encore un pas de plus vers la décrispation du climat sociopolitique. L'ancien président ivoirien est en liberté conditionnelle à Bruxelles après son acquittement en première instance internationale. Au Niger, deux agents des eaux et forêts ont été tués, deux soldats portés disparus après une attaque vendredi dans le sud-ouest du pays, la première depuis près d'un an dans cette région. Les assaillants ont ciblé une position des forces armées nigériennes et des eaux et forêts tôt ce matin dans la Tapoa, située à 150 km au sud de Niamey. Cette attaque intervient après une accalmie de 11 mois dans cette zone après la sanglante attaque djihadiste qui avait coûté la vie à 89 soldats à Chinegodar au début de l'année. Un air de déjà-vu au Ghana. Le pays se prépare à élire son président dans 3 jours lors d'une élection qui s'annonce particulièrement serrée entre deux adversaires politiques de longue date, le sortant Nana Akufo-Addo et son prédécesseur John Mahama. Jacques Aristide.
En 2012 et en 2016, les deux rivaux s'étaient déjà affrontés, chacun remportant de justesse l'un des deux scrutins dans ce pays. À 76 ans, Nana Akufo-Addo, candidat pour le nouveau parti patriotique, brigue un second mandat face au leader de l'opposition, John Mahama, 62 ans du Congrès national démocratique. 11 autres candidats, dont 3 femmes, sont en lice. Les prétendants devront convaincre les 17 millions d'électeurs ghanéens, dont plus de la moitié à moins de 35 ans, qui vont élire également leurs 275 députés. Le chômage, les infrastructures, l'éducation et la santé en sont les principaux enjeux. Depuis le début des années 2000, ce pays riche en or, cacao et plus récemment pétrole a connu une forte croissance et le taux d'extrême pauvreté a été divisé par 2 en moins de 25 ans. Mais certaines régions, notamment dans le nord, continuent de vivre dans le plus grand dénuement, sans eau potable ou l'électricité. Jusqu'ici, le Ghana a toujours échappé aux violences post-électorales et les transitions politiques se sont largement déroulés dans le calme. Contrairement à plusieurs de ses voisins ouest-africains, la période préélectorale a toutefois été marquée par des accros, les opposants accusant notamment la commission électorale de manque de neutralité.
Au Cameroun, des milliers de grands électeurs désignent dimanche des conseillers régionaux. Un scrutin qualifié d'historique par le régime de Paul Biya, mais boycotté par l'opposition. Le point avec Clermont et Jubourg.
Ce scrutin indirect va mobiliser dimanche quelques 24 000 grands électeurs, des conseillers municipaux et chefs traditionnels pour désigner 900 conseillers régionaux, 90 pour chacune des 10 régions du Cameroun. 14 partis sont en lice, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC au pouvoir, avait largement remporté les municipales de février. Il est aussi le seul parti à présenter des candidats dans les deux régions anglophones. Le régime présente ses premières élections régionales comme historiques. Les conseils régionaux prévus par la Constitution de 1996 ont été remis au goût du jour lors du Grand Dialogue National pour régler la crise anglophone. Le scrutin est boycotté par les deux principaux partis d'opposition, le Social Democratic Front et le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de Maurice Kamto, l'opposant emprisonné 9 mois sans jugement l'an dernier et maintenant en résidence surveillée depuis 2 mois et demi.
En République démocratique du Congo, 14 personnes ont été condamnées à mort pour le meurtre de frères jumeaux rappeurs qui ont été brûlés vifs. C'était en fin juillet dans une localité du sud-ouest. C'est ce qu'a déclaré Maître Trésor Labo, un des avocats de la partie civile. Au total, 25 personnes étaient poursuivies dans cette affaire. 9 ont été acquittées faute de preuves. Les combats continuent au Tigré malgré les communiqués de victoire du gouvernement fédéral éthiopien, compliquant les tentatives d'apporter de l'aide à cette région du nord de l'Éthiopie. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi l'ONU. Nathalie Barche.
Nous avons des informations faisant état de combats qui se poursuivent dans plusieurs parties du Tigré. C'est une situation inquiétante et complexe pour nous, a déclaré Saviano Abreu, porte-parole du bureau onusien de coordination de l'aide humanitaire. Les évaluations en matière de sécurité dans la région sont toujours en cours et plusieurs responsables onusiens ont dit ne pas s'attendre à ce que l'aide parvienne au Tigré avant la semaine prochaine. Le gouvernement fédéral nous a accordé l'accès, mais nous devons avoir le même type d'accord avec toutes les parties au conflit afin de nous assurer d'avoir un accès libre et sans condition au Tigré, a indiqué l'un des responsables onusiens. Monsieur Abiy Ahmed a clamé victoire il y a presque une semaine, affirmant que l'opération militaire a été menée à bien et les combats terminés après la prise annoncée de la capitale régionale, mais qu'elle est par les troupes gouvernementales supposé contrôler maintenant la quasi-totalité du Tigré.
Au Mozambique, au moins 25 soldats ont été tués au cours d'une embuscade menée par des combattants djihadistes dans le nord du pays. L'incident a eu lieu mardi, mais on l'a appris aujourd'hui. Les terroristes disposent d'informations précises sur les mouvements de nos soldats, a souligné une source militaire. Un groupe désigné localement sous le nom d'Al-Shabaab a lancé une sanglante insurrection en 2017 dans la province riche en ressources énergétiques de Cabo Delgado, à majorité musulmane. Le groupe a fait allégeance à l'organisation État islamique en 2019. Plusieurs dirigeants africains ont réclamé ce vendredi une aide financière pérenne aux opérations de maintien de l'Union africaine en Afrique lors d'une visioconférence du Conseil de sécurité de l'ONU. Aujourd'hui, jusqu'à 70% des opérations de paix concernent qui appellent à une coordination appropriée entre l'ONU et l'Union africaine. Mahamadou Issoufou, le président du Niger, négocié depuis 2018 un projet de résolution entre les deux organisations et ouvrant sous un financement par l'ONU d'opérations de paix menées par l'Union africaine en Afrique, reste aujourd'hui.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie de COVID-19 a recommencé à s'accélérer dans le monde alors que de nombreux pays affrontent une deuxième vague de la maladie. Dans le même temps, les projets de vaccination massive se précisent. Le point avec Mohamed Oumfa.
Le bilan le plus récent établi par l'université Johns Hopkins fait état de plus de 1,5 million de morts dans le monde pour plus de 65,2 millions de cas recensés. Les États-Unis, plus touchés, enregistrent un peu plus de 276 000 décès, suivis par le Brésil, l'Inde, le Mexique et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui a assuré par la voix de l'Agence britannique du médicament que sa décision rapide d'autoriser le vaccin de Pfizer et BioNTech répondait à toutes les normes de sécurité après des critiques sur la rapidité du processus. En France, plus la vaccination contre le COVID-19 semble à portée de main, moins de Français semblent vouloir se faire vacciner. Seule la moitié des personnes interrogées en novembre a l'intention de le faire contre 2/3 en juillet. Le gouvernement espagnol a annoncé ce vendredi qu'il espérait vacciner 15 à 20 millions de ses concitoyens sur une population de 47 millions d'ici mai ou juin prochain. Le Kazakhstan va commencer à produire le vaccin russe Sputnik V à partir du 22 décembre et commencer une vaccination de masse début 2021.
L'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine, un ancien témoin à charge contre l'ex-président français Nicolas Sarkozy, a été arrêté au Liban à la suite d'une notice émise par Interpol. Takieddine est recherché par les autorités françaises concernant son implication dans une affaire de corruption et de financement de la campagne de M. Sarkozy. En 2016, il a affirmé avoir personnellement remis en 2006 et 2007 5 millions d'euros en liquide provenant de Libye et visant à financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Il s'est ensuite rétracté et s'est enfui au Liban après avoir été condamné en France dans une autre affaire. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nathalie Barge.
À l'issue d'une rencontre avec le Conseil Café Cacao hier à Yamoussoukro, les cacaoculteurs de Côte d'Ivoire ont suspendu leur collaboration autour des programmes de durabilité et de certification avec les chocolatiers et industriels qui s'opposent au paiement du différentiel de revenus décent. Le Conseil a expliqué que certains industriels adoptent des stratégies pour contourner le paiement du DRD dans l'optique de le faire échouer selon les producteurs. Le Sénégal et la Belgique ont évalué hier à Dakar leur programme de coopération lancé l'an dernier. Le ministre de l'économie, Amadou Hoth, a estimé que ce programme est fidèle au plan d'action prioritaire ajusté et accéléré pour la relance de l'économie, validé le 29 septembre dernier. Ces activités seront concentrées principalement dans les régions du centre du pays, notamment pour une infrastructure agro-industrielle moderne. Le Mali a retenu le groupe international Finactu pour élaborer la stratégie nationale d'inclusion financière. Ce projet vise à assurer dans les 5 ans l'accès de produits et services financiers à coût abordable à 75% de la population. La stratégie cible les PME, le milieu rural, les femmes et les jeunes. Finactu, basé à Casablanca, souligne qu'il faut passer par les TIC pour parfaire l'inclusion financière, notamment à travers l'accès à Internet et le paiement digital.
À présent, la page des sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir à tous. C'est ce samedi 5 décembre que démarre à Porto Novo au Bénin le tournoi de qualification à la phase finale de la CAN U20 Total 2021 en Mauritanie de la zone Ouest B de l'UFOA. C'est ce qu'on apprend du site de la CAF qui précise qu'il y a 7 nations issues de la zone Ouest B à s'engager dans cette compétition pour tenter de décrocher les 2 billets pour Mauritanie 2021, organisé par l'Union des fédérations ouest-africaines de football, zone Ouest B, UFOA B donc, en collaboration avec la CAF, cette phase qualificative de la CAN U20 pour les sélections de la zone Ouest B sera l'une des plus belles. Selon la CAF, les organisateurs s'activent dans les derniers réglages afin de mettre tous les participants dans les meilleures conditions, affirme l'instance africaine de football. La justice italienne soupçonne les dirigeants de la Juve d'être impliqués dans l'affaire Luis Suarez, une enquête sur une possible fraude concernant un examen d'Italien passé par le joueur uruguayen, selon un communiqué. L'enquête a permis de comprendre comment, au début du mois de septembre, les dirigeants du club turinois se sont activés pour accélérer la reconnaissance de la citoyenneté italienne à Suarez, indique ce vendredi dans un communiqué le parquet de Pérouse dans le centre de l'Italie en charge de l'enquête. L'ex-joueur de Barcelone, qui était alors pressenti pour signer à la Juve mais a depuis rejoint l'Atlético Madrid, est soupçonné d'avoir triché avec la complicité de ses enseignants italiens pour passer le 17 septembre cet examen, première étape pour obtenir un passeport italien indispensable pour espérer rejoindre le club de Serie A. Zinedine Zidane sur la sellette après la défaite du Real Madrid contre le Shakhtar Donetsk, c'était mardi donc en Ligue des Champions. Il a déclaré ce vendredi ne pas se sentir intouchable, mais suffisamment fort. Je n'ai jamais pensé que j'étais intouchable, jamais, ni en tant que joueur, ni en tant qu'entraîneur, ni en tant que personne, a assuré l'entraîneur français ce vendredi en conférence de presse avant le match du Real contre Séville samedi en Liga. J'ai fait plusieurs saisons ici, ça a toujours été difficile. Aujourd'hui, parce que c'est le présent, on a envie de dire que c'est le moment le plus difficile. C'est comme ça, a écarté Zizou, très serein.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Laurent Gbagbo obtient ses documents de voyage. L'ex-président ivoirien en liberté conditionnelle à Bruxelles, après son acquittement en première instance par la CPI, a obtenu son passeport et envisage un retour en Côte d'Ivoire dès ce mois-ci, selon son avocate maître Abiba Touré. Comment cette nouvelle est accueillie à Abidjan? Bagassi Koura a joint sur place notre confrère Alexis Tano.
Ce que nous constatons, c'est que du côté de Laurent Gbagbo, les gens pensent que cela n'a que trop duré et qu'il y a droit, il devait en bénéficier depuis longtemps et que c'est les autorités ivoiriennes qui ont fait des difficultés à lui attribuer ses passeports. Donc, pour le moment, il n'y a aucune déclaration de la part de ses partisans, ni encore moins de ses camarades qui sont responsables du parti du profond populaire ivoirien à Abidjan. Toutefois, il faut remarquer que dans le communiqué qu'a produit son avocat, M. Abiba Touré, une instruction a été donnée au secrétaire général du Fonds populaire ivoirien, notamment M. Assouagou, côté pro-Gbagbo, d'entrer en contact avec les autorités ivoiriennes afin de favoriser son retour. Donc, nous attendons pour le moment.
Alors, est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il rentre au pays?
Oui. Il a annoncé dans le même communiqué que son retour devait avoir lieu dans ce mois, avant la fin de l'année, dans le mois de décembre. Mais les autorités ivoiriennes n'ont pas encore réagi face à cette éventualité. Nous pensons que c'est après ces négociations que cela pourrait se faire.
Et comment le gouvernement explique tout ce long délai pour remettre à Laurent Gbagbo son passeport?
Alors, quand on fait un tour en arrière, on se rend compte d'après plusieurs explication, notamment l'ambassadeur du Côte d'Ivoire à Belgique, qui avait déclaré en son temps que la délivrance d'un passeport diplomatique ne se fait pas de façon simple. Et puis, en plus, ce n'est pas en Côte d'Ivoire que cela se fait là-bas, que cela impliquait une démarche assez particulière, voire assez lourde. Et que la délivrance du passeport diplomatique de Laurent Gbagbo n'a jamais été refusée. Ouais. Et le président de la République, dans une interview accordée à un média étranger, l'a dit également que Laurent Gbagbo n'est pas n'importe qui, il fallait des dispositions particulières. Et je crois que c'est toute cette procédure qui a fait que la délivrance a mis un peu de temps.
Est-ce que vous pensez que cela va contribuer à apaiser la tension à Abidjan?
C'est possible. C'est vrai que la situation est électrique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais c'est un grand pas d'ailleurs vers la discussion, vers la réconciliation. Étant donné que la présidente de Laurent Gbagbo, beaucoup l'ont souhaité pour contribuer à la réconciliation, et si on tient à cela, nous pensons que ça pourrait contribuer à la réconciliation.
C'était le journaliste Alexis Tano, joint à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Mali, c'est demain samedi que les 121 membres du CNT, le Conseil national de transition, se réuniront pour la séance inaugurale de cette institution qui fera office de parlement pendant la période de transition. Le président du CNT sera élu à cette occasion. Que pensent les Maliens de la composition du CNT? Kassim Traoré a posé la question à quelques Bamakois.
Par rapport à la convocation du Conseil national de la transition, moi je suis inquiet mais pas surpris. Les autorités actuelles ont montré leur amateurisme depuis leur arrivée à travers des déclarations qu'elles n'ont jamais respectées, à travers des engagements qu'elles n'ont jamais respectés et voilà qu'elles viennent encore violer un décret. La clé de répartition du Conseil national de transition a été violée. Et malheureusement, ce qui est triste dans cette histoire-là, c'est que des gens ont été nommés sans pour autant qu'ils n'aient déposé aucun dossier.
Ce que moi, je te dis, là, c'est parce que votre pays, là, il descend l'endemain. Sincèrement, moi, j'ai peur. Moi, mais j'étais surpris de voir ça aujourd'hui. Il y a trop de contraste. Les gars, là, ils sont perdus, quoi. Ils ne savent plus là où donner la tête. Et je sais que les Moutaras et Kossa, ils vont les attaquer, hein.
Pour des personnes comme nous tous qui avons fait ce combat depuis 30 ans et qu'à la fin, on arrive à ce point, je ne sais pas. Je suis peut-être un peu fâché, mais je reste moi-même. Mais ça fait mal. Incroyable. Regardez juste les gens qu'ils ont sélectionnés alors que le CNT, c'est quand même un petit moment. Des expertises, des ressources humaines de qualité qui doivent faire ce boulot rapidement pour faire des bonnes propositions par rapport à la Constitution et à la loi électorale. Et puis on va aller aux élections et voilà, ça passe. Mais là, c'est...
Je suis désolé, mon frère, mais c'est dur.
Il y a quelqu'un qui m'a poussé à postuler là. Moi, j'ai fait mon dossier. J'ai appelé rapidement mon casier de caille. Quand j'ai voulu partir à Katina, il y a tout un cérémonial qu'il fallait assumer d'abord. Ce n'est pas des députés pour nous, hein. C'est des gens qu'ils ont recrutés. Finalement, on a l'impression qu'ils ont choisi.
Ces gens-là ne peuvent pas être porteurs de changement. Donc, le fond a été violé, la forme a été violée. Mais malheureusement, ce qu'il faut retenir, c'est que derrière cette histoire-là, il y a un agenda caché de ces militaires-là. La nomination des militaires à des postes de gouverneur, et j'en passe. Mais, Kassim, si le peuple malien ne se ressaisit pas, si le peuple malien ne se réveille pas, ces gens-là arriveront à leur fin et risqueront de faire plonger le pays dans un trou auquel nous allons passer des années avant de s'en sortir.
Moi, je crains que ce décret-là soit contesté pour sa forme, quoi. Même si le fond, ça va passer, mais pour sa forme de présentation, même s'il y a des homonymes, un Chiaka Traoré, un Amidou Kone qui va quitter Gao, il va venir se pointer que c'est lui. Ils n'ont qu'à nous donner la preuve. Bon, c'est pas une décision inférieure qui va aller donner des précisions sur un décret niais comme ça. Un nom tout court ne veut rien dire. Mal, la même a une décision si la flotte. Je n'ai jamais vu. Moi, par exemple, je suis le chef environnement de Kabbalah. C'est pas pour me flatter.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Les Ghanéens se rendent aux urnes lundi pour la présidentielle. Ils doivent départager le président sortant Nana Akufo-Addo et son prédécesseur John Mahama. Mais pour beaucoup d'électeurs, revoir les mêmes têtes peut paraître lassant. Le reportage de Stacy Knott à Accra. Et c'est un récit de Lionel Gaïma.
Le gouvernement du Ghana a annoncé que le lundi 7 décembre sera un jour férié pour aider plus de 17 millions d'électeurs à se rendre aux urnes. 12 candidats sont en course pour la présidentielle, dont 2 sont donnés favoris. Kodjo Asante du Centre de développement démocratique du Ghana estime qu'il y a comme un sentiment de lassitude au sein de la classe moyenne du pays.
Les premières heures sont un bon indicateur pour savoir si les gens finiront par sortir, s'ils voient que les foules se mobilisent et qu'ils entendent ensuite les commentaires selon lesquels il est très facile d'aller voter, ils pourraient éventuellement sortir, même s'ils avaient décidé de ne pas le faire.
Malgré ce défi, Asante dit que leur enquête montre que les Ghanéens sont préoccupés par les problèmes tels que l'amélioration des infrastructures et l'emploi. L'enquête a mis en évidence des réponses positives sur la gestion du Covid-19, l'accès à l'électricité et à l'éducation. Mais le public a été moins impressionné par le bilan d'Akufo-Addo en matière d'inflation, d'inégalité et de la corruption. Mais Kobi Annan du groupe de conseil en sécurité Songhai Advisory affirme que les deux hommes n'ont pas eu de bilan reluisant.
C'est un choix difficile pour beaucoup de gens. Aucun d'entre eux n'a réalisé des résultats fantastiques pendant son mandat. Et je pense que cela se résumera principalement à des sentiments concernant l'éducation, la corruption, la création d'emplois. Je pense que la création d'emplois et l'éducation en particulier affectent plus de gens au quotidien que la corruption.
Sous la présidence de Mahama, le Ghana a connu une crise énergétique, des délestages en série, des scandales de corruption en répétition, surtout au sein de la justice, de même qu'une dévaluation du CEDI, la monnaie nationale. Trois semaines avant les élections, le procureur spécial anticorruption du pays démissionne avec fracas, alléguant une ingérence politique du pouvoir. Ainsi, la corruption redevient le cheval de bataille de Mahama. Akufo-Addo, lui, nie toute corruption dans son administration. Indépendamment du résultat ou du taux de participation, les analystes s'attendent aussi à ce que les élections soient justes et pacifiques, comme les deux précédentes. Mami Gyeke-Jando dirige le département des sciences politiques de l'Université du Ghana.
Les émotions peuvent être fortes, mais sur la base des précédents, de bons précédents, je crois que ces élections seront pacifiques et que les résultats seront considérés comme crédibles et légitimes.
L'Université du Ghana a publié un sondage qui a donné au NPP, au pouvoir, une avance de 11% sur le NDC avec 5% des électeurs indécis. Les sondages peuvent se tromper et une élection n'est jamais gagnée d'avance.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Lionel Gaïma, Michel Joseph, et à la présentation, Abdourahmane Dia. On reste en contact sur Facebook et également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le sida. Pour attirer l'attention sur la pandémie du sida et pleurer ceux qui sont morts de cette maladie. Le thème de cette année est « Mettre fin à l'épidémie de VIH-sida et résilience et impact ». La publicité générée par la Journée mondiale de lutte contre le sida et les objectifs du millénaire fixés par les Nations unies en l'an 2000 ont contribué à une plus grande prise de conscience mondiale et aux actions visant à étendre les traitements antirétroviraux aux nécessiteux. En 2003, l'administration du président George W. Bush a établi le plan d'urgence du président des États-Unis contre le sida, ou PEPFAR, le plus grand engagement d'un pays dans la lutte contre une seule maladie au plan international, qui a depuis lors bénéficié d'un soutien bipartisan. Quelque 38 millions de personnes vivent actuellement avec le sida. 68% de ces malades adultes reçoivent une thérapie antirétrovirale salvatrice, selon les chiffres de juin 2020. Malgré ces énormes chiffres, ONU Sida note que les décès liés au sida ont été réduits de 60% depuis qu'ils ont culminé en 2004 et les nouvelles infections ont baissé de 40% depuis 1997. Le mérite de ce succès revient au gouvernement américain, œuvrant à travers le PEPFAR. Intervenant dans plus de 50 pays, le PEPFAR a aidé à mettre de l'ordre là où il y avait le chaos, en appuyant les pays partenaires pour qu'ils parviennent à contrôler leurs épidémies de sida. Jusqu'au 30 septembre de cette année, le PEPFAR a soutenu des traitements antirétroviraux pour près de 17,2 millions de personnes, assurer que 2,8 millions de bébés puissent naître sains de mères vivant avec le VIH et fournit des soins cruciaux et de l'aide à 6,7 millions d'orphelins et ceux qui s'occupent d'eux. Cette année, la pandémie du COVID-19 présente des défis spéciaux pour la réponse mondiale contre le VIH-Sida. Qu'à cela ne tienne, les pays partenaires ont été à même de mettre à contribution les installations laboratoires et chaînes d'approvisionnement soutenues par le PEPFAR pour renforcer leur réponse locale au COVID-19 et prévenir le ralentissement ou le recul de leur réponse au VIH-Sida. Le leadership américain dans la réponse mondiale au VIH-Sida est plus clair et plus fort que jamais à travers le plan d'urgence présidentielle contre le sida a dit le président Trump. Ces efforts ont permis de faire passer la pandémie du VIH-Sida d'une crise à une phase de contrôle, communauté par communauté.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.